pille miche, dit-il à son camarade. Je n'y vois goutte. As-tu ta chinchoir ? Oh, crébleu, la belle chaîne, répondit pille miche en fouillant dans une poche pratiquée sous sa peau de bique. Il tendit à Marchater ce petit cône en corne de bœuf dans lequel les Bretons mettent le tabac fin qu'ils lévigent eux-mêmes pendant les longues soirées d'hiver. Le chouan leva le pouce de manière à former dans son poignet gauche ce creux où les Invalides se mesurent leur prise de tabac. Il y secoua fortement la chinchoire dont la pointe avait été dévissée par pille miche. Une poussière impalpable tomba lentement par le petit trou qui terminait le cône de ce meuble breton. Marchater recommença 7 ou 8 fois ce manège silencieux, comme si cette poudre eût possédé le pouvoir de changer la nature de ses pensées. Tout à coup, il laissa échapper un geste désespéré, jeta la chinchoire à pille miche et ramassa une carabine cachée dans la paille. « 7 à 8 chinchés comme ça de suite, ça ne vaut rien !» dit l'avare pille miche. « En route !» s'écria Marchater d'une voix rauque. « Nous avons de la besogne !» Une trentaine de chouans, qui dormaient sous les râteliers et dans la paille, levèrent la tête, virent Marchater debout, et disparurent aussitôt par une porte qui donnait sur des jardins et d'où l'on pouvait gagner les champs. Lorsque Francine sortit de l'écurie, elle trouva la malle en état de partir. Mademoiselle de Verneuil et ses 2 compagnons de voyage y étaient déjà montés. La Bretonne frémit en voyant sa maîtresse au fond de la voiture à côté de la femme qui venait d'en ordonner la mort. Le suspect se mit en avant de Marie, et aussitôt que Francine se fut assise, la lourde voiture partit au grand trot. Le soleil avait dissipé les nuages gris de l'automne, et ses rayons animaient la mélancolie des champs par un certain air de fête et de jeunesse. Beaucoup d'amants prennent ces hasards du ciel pour des présages. Francine fut étrangement surprise du silence qui régna d'abord entre les voyageurs. Mademoiselle de Verneuil avait repris son air froid et se tenait les yeux baissés, la tête doucement inclinée et les mains cachées sous une espèce de mante dans laquelle elle s'enveloppa. Si elle leva les yeux, ce fut pour voir les paysages qui s'enfuyaient en tournoyant avec rapidité. Certaine d'être admirée, elle se refusait à l'admiration, mais son apparente insouciance accusait plus de coquetterie que de candeur. La touchante pureté qui donne tant d'harmonie aux diverses expressions par lesquelles se révèlent les âmes faibles semblait ne pas pouvoir prêter son charme à une créature que ses vives impressions destinaient aux orages de l'amour. En proie au plaisir que donnent les commencements d'une intrigue, l'inconnue ne cherchait pas encore à s'expliquer la discordance qui existait entre la coquetterie et l'exaltation de cette singulière fille. Cette candeur jouée ne lui permettait-elle pas de contempler à son aise une figure que le calme embellissait alors autant qu'elle venait de l'être par l'agitation? Nous n'accusons guère la source de nos jouissances. Il est difficile à une jolie femme de se soustraire en voiture au regard de ses compagnons dont les yeux s'attachent sur elle comme pour y chercher une distraction de plus à la monotonie du voyage. Aussi, très heureux de pouvoir satisfaire l'avidité de sa passion naissante, sans que l'inconnu évitât son regard ou s'offensât de sa persistance, le jeune officier se plut-il à étudier les lignes pures et brillantes qui dessinaient les contours de ce visage. Ce fut pour lui comme un tableau, Tantôt le jour faisait ressortir la transparence rose des narines et le double arc qui unissait le nez à la lèvre supérieure. Tantôt un pâle rayon de soleil mettait en lumière les nuances du teint nacré sous les yeux et autour de la bouche, rosé sur les joues, mat vers les tempes et sur le cou. Il admira les oppositions de clair et d'ombre produites par des cheveux dont les rouleaux noirs environnaient la figure en y imprimant une grâce éphémère. Car tout est si fugitif chez la femme. Sa beauté d'aujourd'hui n'est souvent pas celle d'hier. Heureusement pour elle, peut-être, encore dans l'âge où l'homme peut jouir de ces riens qui sont tout l'amour, le soi-disant marin attendait avec bonheur le mouvement répété des paupières et les jeux séduisants que la respiration donnait au corsage. Parfois, au gré de ses pensées, il épiait un accord entre l'expression des yeux et l'imperceptible inflexion des lèvres. Chaque geste lui ouvrait une âme, chaque mouvement une face nouvelle de cette jeune fille. Si quelques idées venaient agiter ses traits mobiles, si quelque soudaine rougeur s'y infusait, si le sourire y répandait la vie, il savourait mille délices en cherchant à deviner les secrets de cette femme mystérieuse. Tout était piège pour l'âme, piège pour les sens. Enfin, le silence, loin d'élever des obstacles à l'entente des cœurs, devenait un lien commun pour les pensées. Plusieurs regards où ses yeux rencontrèrent ceux de l'étranger apprirent à Marie de Verneuil que ce silence allait la compromettre. Elle fit alors à Madame Dugas quelques-unes de ces demandes insignifiantes qui préludent aux conversations. Mais elle ne put s'empêcher d'y mêler le fils. « Madame, comment avez-vous pu, disait-elle, vous décider à mettre monsieur votre fils dans la marine ? N'est-ce pas vous condamner à de perpétuelles inquiétudes ? Mademoiselle, le destin des femmes, des mères, veux-je dire, est de toujours trembler pour leur plus cher trésor. Monsieur vous ressemble beaucoup. Vous trouvez, mademoiselle ? Cette innocente légitimation de l'âge que Madame Dugas s'était donnée fit sourire le jeune homme et inspira à sa prétendue mère un nouveau dépit. La haine de cette femme grandissait à chaque regard passionné que jetait son fils sur Marie. Le silence, le discours, tout allumait en elle une effroyable rage, déguisée sous les manières les plus affectueuses. « Mademoiselle, dit alors l'inconnu, vous êtes dans l'erreur. Les marins ne sont pas plus exposés que ne le sont les autres militaires. Les femmes ne devraient pas haïr la marine. N'avons-nous pas sur les troupes de terre l'immense avantage de rester fidèles à nos maîtresses ? Oh, de force ! Répondit en riant Mademoiselle de Verneuil. C'est toujours de la fidélité, répliqua Madame Dugas d'un ton presque sombre. La conversation s'anima, se porta sur des sujets qui n'étaient intéressants que pour les trois voyageurs, car en ces sortes de circonstances, les gens d'esprit donnent aux banalités des significations neuves. Mais l'entretien, frivole en apparence, par lequel ces inconnus se plurent à s'interroger mutuellement, cacha les désirs, les passions et les espérances qui les agitaient. La finesse et la malice de Marie, qui fut constamment sur ses gardes, apprirent à Madame Dugas que la calomnie et la trahison pourraient seules la faire triompher d'une rivale aussi redoutable par son esprit que par sa beauté. Les voyageurs atteignirent l'escorte, et la voiture alla moins rapidement. Le jeune marin aperçut une longue côte à monter et proposa une promenade à Mademoiselle de Verneuil. Le bon goût, l'affectueuse politesse du jeune homme semblèrent décider la Parisienne, et son consentement le flatta. Mademoiselle est-elle de notre avis ? Demanda-t-elle à Madame Dugas. Veut-elle aussi se promener ? Coquette ! Dit la dame en descendant de voiture. Marie et l'inconnue marchèrent ensemble, mais séparés. Le marin, déjà saisi par de violents désirs, fut jaloux de faire tomber la réserve qu'on lui opposait et de laquelle il n'était pas la dupe. Il crut pouvoir y réussir en badinant avec l'inconnue à la faveur de cette amabilité française, de cet esprit parfois léger, parfois sérieux, toujours chevaleresque, souvent moqueur, qui distinguait les hommes remarquables de l'aristocratie exilée. Mais la rieuse parisienne plaisanta si malicieusement le jeune républicain, s'il lui reprochait ses intentions de frivolité si dédaigneusement, en s'attachant de préférence aux idées fortes et à l'exaltation qui perçait malgré lui dans ses discours, qu'il devina facilement le secret de plaire. La conversation changea donc. L'étranger réalisa dès lors les espérances que donnait sa figure expressive. De moment en moment, il éprouvait de nouvelles difficultés en voulant apprécier la sirène de laquelle il s'éprenait de plus en plus, et fut forcé de suspendre ses jugements sur une fille qui se faisait un jeu de les infirmer tous. Après avoir été séduit par la contemplation de la beauté, il fut donc entraîné vers cette âme inconnue par une curiosité que Marie se plut à exciter. Cet entretien prit insensiblement un caractère d'intimité très étranger au ton d'indifférence que Mademoiselle de Verneuil s'efforça d'y imprimer sans pouvoir y parvenir. Quoique Madame Dugas eût suivi les deux amoureux, ils avaient insensiblement marché plus vite qu'elle, et ils s'en trouvèrent bientôt séparés par une centaine de pas environ. Ces deux charmants êtres foulaient le sable fin de la route, emportés par le charme enfantin d'unir le léger retentissement de leurs pas, heureux de se voir enveloppés par un même rayon de lumière qui paraissait appartenir au soleil du printemps, et de respirer ensemble ces parfums d'automne chargés de tant de dépouilles végétales qui semblent une nourriture apportée par les airs à la mélancolie de l'amour naissant. Quoiqu'ils ne parussent voir l'un et l'autre qu'une aventure ordinaire dans leur union momentanée, le ciel, le site et la saison communiquèrent à leurs sentiments une teinte de gravité qui leur donna l'apparence de la passion. Ils commencèrent à faire l'éloge de la journée, de sa beauté, puis ils parlèrent de leur étrange rencontre, de la rupture prochaine d'une liaison si douce et de la facilité qu'on met en voyage à s'épancher avec les personnes aussitôt perdues qu'entrevues. À cette dernière observation, le jeune homme profita de la permission tacite qui semblait l'autoriser à faire quelques douces confidences et essaya de risquer des aveux en homme accoutumé à de semblables situations. Remarquez-vous, mademoiselle, lui dit-il, combien les sentiments suivent peu la route commune dans le temps de terreur où nous vivons. Autour de nous, tout n'est-il pas frappé d'une inexplicable soudaineté ? Aujourd'hui, nous aimons, nous haïssons sur la foi d'un regard. L'on s'unit pour la vie et l'on se quitte avec la célérité dont on marche à la mort. On se dépêche en toutes choses, comme la nation dans ses tumultes. Au milieu des dangers, les étreintes doivent être plus vives que dans le train ordinaire de la vie. À Paris dernièrement, chacun a su, comme sur un champ de bataille, tout ce que pouvait dire une poignée de main. On sentait la nécessité de vivre vite et beaucoup, répondit-elle, parce qu'on avait alors peu de temps à vivre. Et après avoir lancé à son jeune compagnon un regard qui semblait lui montrer le terme de leur court voyage, elle ajouta malicieusement Vous êtes bien instruit des choses de la vie pour un jeune homme qui sort de l'école. Que pensez-vous de moi ? Demanda-t-il après un moment de silence. Dites-moi votre opinion sans ménagement. Vous voulez sans doute acquérir ainsi le droit de me parler de moi, répliqua-t-elle en riant. Vous ne répondez pas, reprit-il après une légère pause. Prenez garde, le silence est souvent une réponse. Ne devinais-je pas tout ce que vous voudriez pouvoir me dire? Et mon Dieu, vous avez déjà trop parlé. Oh, si nous nous entendons, reprit-il en riant, j'obtiens plus que je n'osais espérer. Elle se mit à sourire si gracieusement qu'elle parut accepter la lutte courtoise de laquelle tout homme se plaît à menacer une femme. Ils se persuadèrent alors, autant sérieusement que par plaisanterie, qu'il leur était impossible d'être jamais l'un pour l'autre autre chose que ce qu'ils étaient en ce moment. Le jeune homme pouvait se livrer à une passion qui n'avait point d'avenir, et Marie pouvait en rire. Puis quand ils eussent élevé ainsi entre eux une barrière imaginaire, ils parurent l'un et l'autre fort empressés de mettre à profit la dangereuse liberté qu'ils venaient de stipuler. Mais Marie heurta tout à coup une pierre et fit un faux pas. « Prenez mon bras, » dit l'inconnu. « Il le faut bien, » étourdi. « Vous seriez trop fière si je refusais. N'aurais-je pas l'air de vous craindre ?»« Ah, mademoiselle !» répondit-il en lui pressant le bras pour lui faire sentir les battements de son cœur. « Vous allez me rendre fière de cette faveur. »« Eh bien, ma facilité vous ôtera vos illusions. »« Vous voulez déjà me défendre contre le danger des émotions que vous causez ?»« Cessez, je vous prie, » dit-elle, de m'entortiller dans ces petites idées de boudoir, dans ces logogriffes de ruelle. Je n'aime pas à rencontrer chez un homme de votre caractère l'esprit que les sots peuvent avoir. Voyez, nous sommes sous un beau ciel, en pleine campagne. Devant nous, au-dessus de nous, tout est grand. Vous voulez me dire que je suis belle, n'est-ce pas? Mais vos yeux me le prouvent. Et d'ailleurs, je le sais, mais je ne suis pas une femme que des compliments puissent flatter. Voudriez-vous par hasard me parler de vos sentiments ? Dit-elle avec une emphase sardonique. Me supposeriez-vous donc la simplicité de croire à des sympathies soudaines assez fortes pour dominer une vie entière par le souvenir d'une matinée ? Non, pas d'une matinée, répondit-il. Mais d'une belle femme qui s'est montrée généreuse. Vous oubliez, reprit-elle en riant, de bien plus grands attraits. Une femme inconnue et chez laquelle tout doit sembler bizarre. Le nom, la qualité, la situation, la liberté d'esprit et de manière. Vous ne m'êtes point inconnue, s'écria-t-il. J'ai su vous deviner. Et ne voudrais rien ajouter à vos perfections, si ce n'est un peu plus de foi dans l'amour que vous inspirez tout d'abord. Ah, mon pauvre enfant de 17 ans, vous parlez déjà d'amour, dit-elle en souriant. Eh bien, soit, reprit-elle. C'est là un secret de conversation entre deux personnes, comme la pluie et le beau temps quand nous faisons une visite. Prenons-le. Vous ne trouverez en moi ni fausse modestie, ni petitesse. Je puis écouter ce mot sans rougir. Il m'a été tant de fois prononcé sans l'accent du cœur qu'il est devenu presque insignifiant pour moi. Il m'a été répété au théâtre, dans les livres, dans le monde, partout. Mais je n'ai jamais rien rencontré qui ressemblât à ce magnifique sentiment. L'avez-vous cherché ? « Oui. » Ce mot fut prononcé avec tant de laisser-aller que le jeune homme fit un geste de surprise et regarda fixement Marie, comme s'il eût tout à coup changé d'opinion sur son caractère et sa véritable situation. « Mademoiselle, dit-il avec une émotion mal déguisée. Êtes-vous fille ou femme, ange ou démon ? Je suis l'un et l'autre, reprit-elle en riant. N'y a-t-il pas toujours quelque chose de diabolique et d'angélique chez une jeune fille qui n'a point aimé, qui n'aime pas et qui n'aimera peut-être jamais ? Et vous trouverez-vous heureuse ainsi ? Dit-il en prenant un ton et des manières libres, comme s'il eût déjà conçu moins d'estime pour sa libératrice. « Oh, heureuse ! » reprit-elle. « Non. Si je viens à penser que je suis seule, dominée par des conventions sociales qui me rendent nécessairement artificieuse, j'envie les privilèges de l'homme. Mais si je songe à tous les moyens que la nature nous a donnés pour vous envelopper, vous autres, pour vous enlacer dans les filets invisibles d'une puissance à laquelle aucun de vous ne peut résister, alors mon rôle ici-bas me sourit. Puis, tout à coup, il me semble petit, et je sens que je mépriserais un homme s'il était la dupe de séductions vulgaires. Enfin, tantôt j'aperçois notre joug, et il me plaît, puis il me semble horrible, et je m'y refuse. Tantôt je sens en moi ce désir de dévouement qui rend la femme si noblement belle, puis j'éprouve un plaisir de domination qui me dévore. Peut-être est-ce le combat naturel du bon et du mauvais principe qui fait vivre toute créature ici-bas, ange ou démon, vous l'avez dit. Ah, ce n'est pas d'aujourd'hui que je reconnais ma double nature. Mais nous autres femmes, nous comprenons encore mieux que vous notre insouciance. N'avons-nous pas un instinct qui nous fait pressentir en toute chose une perfection à laquelle il est sans doute impossible d'atteindre ? Mais, ajouta-t-elle en regardant le ciel et jetant un soupir, ce qui grandit à vos yeux, c'est, dit-il. Eh bien, répondit-elle, c'est que nous luttons toutes, plus ou moins, contre une destinée incomplète. Mademoiselle, pourquoi donc nous quittons-nous ce soir ? Ah, dit-elle en se riant au regard passionné que lui lança le jeune homme. Remontons en voiture, le grand air ne nous vaut rien. Marie se retourna brusquement. L'inconnu la suivit et lui serra le bras par un mouvement peu respectueux, mais qui exprima tout à la fois d'impérieux désir et de l'admiration. Elle marcha plus vite. Le marin devina qu'elle voulait fuir une déclaration peut-être importune. Il n'en devint que plus ardent, risqua tout pour arracher une première faveur à cette femme, et il lui dit en la regardant avec finesse. « Voulez-vous que je vous apprenne un secret ?»« Oh ! Dites promptement s'il vous concerne. »« Je ne suis point au service de la République. »« Où allez-vous ? J'irai. » À cette phrase, Marie trembla violemment. Elle retira son bras et se couvrit le visage de ses deux mains pour dérober la rougeur ou la pâleur peut-être qui en altéra les traits. Mais elle dégagea tout à coup sa figure et dit d'une voix attendrie « Vous avez donc débuté comme vous auriez fini. Vous m'avez trompée. » « Oui, » dit-il. À cette réponse, elle tourna le dos à la grosse malle vers laquelle il se dirigeait et se mit à courir presque. « Mais, reprit l'inconnu, l'air ne vous valait rien. Oh, il a changé !» dit-elle avec un son de voix grave, en continuant à marcher, en proie à des pensées orageuses. « Vous vous taisez ? » demanda l'étranger, dont le cœur se remplit de cette douce appréhension que donne l'attente du plaisir. « Oh ! » dit-elle d'un accent bref, « la tragédie a bien promptement commencé. »« De quelle tragédie parlez-vous ? » demanda-t-il. Elle s'arrête, toisa les lèvres d'abord d'un air empreint d'une double expression de crainte et de curiosité, puis elle cacha, sous un calme impénétrable, les sentiments qui l'agitaient, et montra que, pour une jeune fille, elle avait une grande habitude de la vie. « Qui êtes-vous ? » reprit-elle. « Mais je le sais. En vous voyant, je m'en étais doutée. Vous êtes le chef royaliste nommé Legat. L'ex-évêque d'Autun a bien raison en nous disant de toujours croire aux pressentiments qui annoncent des malheurs. Quel intérêt avez-vous donc à connaître ce garçon-là ? Quel intérêt aurait-il donc à se cacher de moi si je lui ai déjà sauvé la vie ? » Elle se mit à rire, mais forcément. « J'ai sagement fait de vous empêcher de me dire que vous m'aimez. Sachez-le bien, monsieur, je vous abhorre. Je suis républicaine, vous êtes royaliste, et je vous livrerai si vous n'aviez ma parole, si je ne vous avais déjà sauvé une fois, et si... » Elle s'arrêta. Ses violents retours sur elle-même, ses combats qu'elle ne se donnait plus la peine de déguiser, inquiétèrent l'inconnu, qui tâcha mais vainement de l'observer. « Quittons-nous à l'instant, je le veux. Adieu !» dit-elle. Elle se retourna vivement, fit quelques pas et revint. « Mais non, j'ai un immense intérêt à apprendre qui vous êtes, » reprit-elle. « Ne me cachez rien et dites-moi la vérité. Qui êtes-vous ? Car vous n'êtes pas plus un élève de l'école que vous n'avez 17 ans. » « Je suis un marin, tout prêt à quitter l'océan pour vous suivre partout où votre imagination voudra me guider. Si j'ai le bonheur de vous offrir quelques mystères, je me garderai bien de détruire votre curiosité. Pourquoi mêler les graves intérêts de la vie réelle à la vie du cœur, où nous commencions à si bien nous comprendre ?»« Nos âmes auraient pu s'entendre, » dit-elle d'un ton grave. « Mais, monsieur, je n'ai pas le droit d'exiger votre confiance. Vous ne connaîtrez jamais l'étendue de vos obligations envers moi. Je me tairai. » Ils avancèrent de quelques pas dans le plus profond silence. « Combien ma vie vous intéresse ? » reprit l'inconnu. « Monsieur, dit-elle, de grâce, votre nom, où taisez-vous ? Vous êtes un enfant, ajouta-t-elle en haussant les épaules. Et vous me faites pitié. » L'obstination que la voyageuse mettait à connaître son secret fit hésiter le prétendu marin entre la prudence et ses désirs. Le dépit d'une femme souhaitée a de bien puissants attraits. Sa soumission, comme sa colère, est si impérieuse. Elle attaque tant de fibres dans le cœur de l'homme, elle le pénètre et le subjugue. Était-ce chez Mademoiselle de Verneuil une coquetterie de plus ? Malgré sa passion, l'étranger eut la force de se défier d'une femme qui voulait lui violemment arracher un secret de vie ou de mort. « Pourquoi ? » lui dit-il en lui prenant la main qu'elle laissa prendre par distraction. « Pourquoi mon indiscrétion ? Qui donnait un avenir à cette journée, en a-t-elle détruit le charme ? » Mademoiselle de Verneuil, qui paraissait souffrante, garda le silence. « En quoi puis-je vous affliger ? » reprit-il. « Et que puis-je faire pour vous apaiser ? » « Dites-moi votre nom. » À son tour, il marcha en silence, et ils avancèrent de quelques pas. Tout à coup, Mademoiselle de Verneuil s'arrêta, comme une personne qui a pris une importante détermination. « Monsieur le marquis de Montauran, » dit-elle avec dignité, sans pouvoir entièrement déguiser une agitation qui donnait une sorte de tremblement nerveux à ses traits. « Quoi qu'il puisse m'en coûter, je suis heureuse de vous rendre un bon office. » Ici, nous allons nous séparer. L'escorte et la malle sont trop nécessaires à votre sûreté pour que vous n'acceptiez pas l'une et l'autre. Ne craignez rien des républicains. tous ces soldats, voyez-vous, sont des hommes d'honneur, et je vais donner à l'adjudant des ordres qu'il exécutera fidèlement. Quant à moi, je puis regagner Alençon à pied avec ma femme de chambre. Quelques soldats nous accompagneront. Écoutez-moi bien, car il s'agit de votre tête. Si vous rencontriez, avant d'être en sûreté, l'horrible muscadin que vous avez vu dans l'auberge, fuyez, car il vous livrerait aussitôt. Quant à moi, elle fit une pause. Quant à moi, je me rejette avec orgueil dans les misères de la vie, reprit-elle à voix basse en retenant ses pleurs. Adieu, monsieur. Puissiez-vous être heureux. Adieu. Elle fit un signe au capitaine Merle, qui atteignait alors le haut de la colline. Le jeune homme ne s'attendait pas à un si brusque dénouement. « Attendez ! » cria-t-il avec une sorte de désespoir assez bien joué. Ce singulier caprice d'une fille, pour laquelle il aurait alors sacrifié sa vie, surprit tellement l'inconnu qu'il inventa une déplorable ruse pour tout à la fois cacher son nom et satisfaire la curiosité de Mademoiselle de Verneuil. « Vous avez presque deviné, dit-il. Je suis émigré, condamné à mort, et je me nomme le vicomte de Beauvent. L'amour de mon pays m'a ramené en France près de mon frère. J'espère être radié de la liste par l'influence de Madame de Beauharnais, aujourd'hui la femme du premier consul. Mais si j'échoue, alors je veux mourir sur la terre de mon pays en combattant auprès de Montauran, mon ami. Je vais d'abord en secret, à l'aide d'un passeport qu'il m'a fait parvenir, savoir s'il me reste quelque propriété en Bretagne. » Pendant que le jeune gentilhomme parlait, Mademoiselle de Verneuil l'examinait d'un œil perçant. Elle essaya de douter de la vérité de ses paroles, mais crédule et confiante, elle reprit lentement une expression de sérénité et s'écria « Monsieur, ce que vous me dites en ce moment est-il vrai ?»« Parfaitement vrai, » répéta l'inconnu qui paraissait mettre peu de probité dans ses relations avec les femmes. Mademoiselle de Verneuil soupira fortement comme une personne qui revient à la vie. « Ah ! » s'écria-t-elle, « je suis bien heureuse. Vous haïssez donc bien mon pauvre Montauran ?»« Non, » dit-elle, « vous ne sauriez me comprendre. Je n'aurais pas voulu que vous fussiez menacé des dangers contre lesquels je vais tâcher de le défendre, puisqu'il est votre ami. » « Qui vous a dit que Montauran fut en danger ?»« Eh, monsieur, si je ne venais pas de Paris, où il n'est question que de son entreprise, le commandant d'Alençon nous en a dit assez sur lui, je pense. »« Je vous demanderai alors comment vous pourriez le préserver de tout danger ?»« Et si je ne voulais pas répondre ?» dit-elle avec cet air dédaigneux sous lequel les femmes savent si bien cacher leurs émotions. « De quel droit voulez-vous connaître mes secrets ?»« Du droit que doit avoir un homme qui vous aime. »« Déjà ? » dit-elle. « Non, vous ne m'aimez pas, monsieur. Vous voyez en moi l'objet d'une galanterie passagère, voilà tout. Ne vous ai-je pas sur le champ deviné ? Une personne qui a quelque habitude de la bonne compagnie peut-elle, par les mœurs qui courent, se tromper en entendant un élève de l'école polytechnique se servir d'expressions choisies et déguisées aussi mal que vous l'avez fait les manières d'un grand seigneur sous l'écorce des républicains. Mais vos cheveux ont un reste de poudre et vous avez un parfum de gentilhomme que doit sentir tout d'abord une femme du monde. Aussi, tremblant pour vous que mon surveillant, qui a toute la finesse d'une femme, ne vous reconnût, l'ai-je promptement congédié. Monsieur, un véritable officier républicain, sorti de l'école, ne se croirait pas près de moi en bonne fortune et ne me prendrait pas pour une jolie intrigante. Permettez-moi, monsieur de Beauvan, de vous soumettre à ce propos un léger raisonnement de femme. Êtes-vous si jeune que vous ne sachiez pas que, de toutes les créatures de notre sexe, la plus difficile à soumettre est celle dont la valeur est chiffrée et qui s'ennuie du plaisir. Cette sorte de femme exige, m'a-t-on dit, la plus grande des fatuités. Mettons à part cette classe de femmes dans laquelle vous me faites la galanterie de me ranger, car elles sont tenues toutes d'être belles, vous devez comprendre qu'une jeune femme noble, belle, spirituelle, vous m'accordez ces avantages, ne se vend pas et ne peut s'obtenir que d'une seule façon quand elle est aimée. Vous m'entendez? Si elle aime et qu'elle veuille faire une folie, elle doit être justifiée par quelque grandeur. Pardonnez-moi ce luxe de logique, si rare chez les personnes de notre sexe, mais pour votre honneur et le mien, dit-elle en s'inclinant, je ne voudrais pas que nous nous trompassions sur notre mérite ou que vous crussiez mademoiselle de Verneuil, ange ou démon, fille ou femme, capable de se laisser prendre à de banales galanteries. Mademoiselle, dit le marquis dont la surprise, quoique dissimulée, fut extrême et qui redevint tout à coup homme de grande compagnie, je vous supplie de croire que je vous accepte comme une très noble personne, pleine de cœur et de sentiments élevés, ou comme une bonne fille, à votre choix. Je ne vous demande pas tant, monsieur, dit-elle en riant. Laissez-moi mon incognito. D'ailleurs, mon masque est mieux mis que le vôtre, et il me plaît à croire de le garder, ne fût-ce que pour savoir si les gens qui me parlent d'amour sont sincères. Ne vous hasardez donc pas légèrement près de moi. « Monsieur, écoutez, lui dit-elle en lui saisissant le bras avec force, si vous pouviez me trouver un véritable amour, aucune puissance humaine ne nous séparerait. Oui, je voudrais m'associer à quelque grande existence d'homme, épouser une vaste ambition, de belles pensées. Les nobles cœurs ne sont pas infidèles, car la constance est une force qui leur va. Je serai donc toujours aimée, toujours heureuse, mais aussi ne serais-je pas toujours prête à faire de mon corps une marche pour élever l'homme qui aurait mes affections, à me sacrifier pour lui, à tout supporter de lui, à l'aimer toujours, même quand il ne m'aimerait plus. Je n'ai jamais osé confier à un autre cœur ni les souhaits du mien, ni les élans passionnés de l'exaltation qui me dévore. Mais je puis bien vous en dire quelque chose, puisque nous allons nous quitter aussitôt que vous serez en sûreté. Nous quitter? Jamais! Dit-il, électrisé par les sons que rendait cette âme vigoureuse qui semblait se débattre contre quelque immense pensée. Êtes-vous libre? Reprit-elle en lui jetant un regard dédaigneux qui le rapetissa. Oh, pour libre, oui, sauf la condamnation à mort. Elle lui dit alors d'une voix pleine de sentiments amers, si tout ceci n'était pas un songe, quelle belle vie serait la vôtre! Mais si j'ai dit des folies, n'en faisons pas, quand je pense à tout ce que vous devriez être. Pour m'apprécier à ma juste valeur, je doute de tout. Et moi je ne douterai de rien, si vous vouliez ma part. Chut! S'écria-t-elle en entendant cette phrase dite avec un véritable accent de passion. L'air ne vous vaut décidément plus rien. Allons retrouver nos chaperons. La malle ne tarda pas à rejoindre ces deux personnages qui reprirent leur place et firent quelques lieues dans le plus profond silence. S'ils avaient l'un et l'autre trouvé matière à d'amples réflexions, leurs yeux ne craignirent plus désormais de se rencontrer. Tous deux, ils semblaient avoir un égal intérêt à s'observer et à se cacher un secret important, mais ils se sentaient entraînés l'un vers l'autre par un même désir qui, depuis leur entretien, contractait l'étendue de la passion, car ils avaient réciproquement reconnu chez eux des qualités qui rehaussaient encore à leurs yeux les plaisirs qu'ils se promettaient de leur lutte ou de leur union. Peut-être chacun d'eux, embarqué dans une vie aventureuse, était-il arrivé à cette singulière situation morale où, soit par lassitude, soit pour défier le sort, on se refuse à des réflexions sérieuses et où l'on se livre aux chances du hasard en poursuivant une entreprise précisément parce qu'elle n'offre aucune issue et qu'on veut en voir le dénouement nécessaire. La nature morale n'a-t-elle pas, comme la nature physique, ses gouffres et ses abîmes où les caractères forts aiment à se plonger en risquant leur vie, comme un joueur aime jouer sa fortune? Le gentilhomme et Mademoiselle de Verneuil eurent en quelque sorte une révélation de ces idées qui leur furent communes après l'entretien dont elles étaient la conséquence, et ils firent ainsi tout à coup un pas immense, car la sympathie des âmes suivit celle de leur sens. Néanmoins, plus ils se sentirent fatalement entraînés l'un vers l'autre, plus ils furent intéressés à s'étudier, ne fût-ce que pour augmenter, par un involontaire calcul, la somme de leurs jouissances futures. Le jeune homme, encore étonné de la profondeur des idées de cette fille bizarre, se demanda tout d'abord comment elle pouvait allier tant de connaissances acquises à tant de fraîcheur et de jeunesse. Il crut découvrir alors un extrême désir de paraître chaste, dans l'extrême chasteté que Marie cherchait à donner à ses attitudes. Il la soupçonna de feinte, se querella sur son plaisir, et ne voulut plus voir dans cette inconnue qu'une habile comédienne. Il avait raison. Mademoiselle de Verneuil, comme toutes les filles du monde, devenues d'autant plus modestes qu'elles ressentaient plus d'ardeur, prenait fort naturellement cette contenance de pruderie sous laquelle les femmes savent si bien voiler leurs désirs excessifs. Toutes voudraient s'offrir vierges à la passion, et si elles ne le sont pas, leur dissimulation est toujours un hommage qu'elles rendent à leur amour. Ces réflexions passèrent rapidement dans l'âme du gentilhomme et lui firent plaisir. En effet, pour tous deux, cet examen devait être un progrès, et l'amant en vint bientôt à cette phase de la passion où un homme trouve, dans les défauts de sa maîtresse, des raisons pour l'aimer davantage. Mademoiselle de Verneuil resta plus longtemps pensive que ne le fut l'émigré. Peut-être son imagination lui faisait-elle franchir une plus grande étendue de l'avenir. Le jeune homme obéissait à quelqu'un des mille sentiments qu'il devait éprouver dans sa vie d'homme, et la jeune fille apercevait toute une vie en se complaisant à l'arranger belle, à la remplir de bonheur, de grands et de nobles sentiments. Heureuse en idées, éprise autant de ses chimères que de la réalité, autant de l'avenir que du présent, Marie essaya de revenir sur ses pas pour mieux établir son pouvoir sur ce jeune cœur, agissant en cela instinctivement, comme agissent toutes les femmes. Après être convenue avec elle-même de se donner tout entière, elle désirait, pour ainsi dire, se disputer en détail. Elle aurait voulu pouvoir reprendre dans le passé toutes ses actions, ses paroles, ses regards, pour les mettre en harmonie avec la dignité de la femme aimée. Aussi, ses yeux exprimèrent-ils parfois une sorte de terreur quand elle songeait à l'entretien qu'elle venait d'avoir et où elle s'était montrée si agressive. Mais en contemplant cette figure empreinte de force, elle se dit qu'un être si puissant devait être généreux et s'applaudit de rencontrer une part plus belle que celle de beaucoup d'autres femmes en trouvant dans son amant un homme de caractère, un homme condamné à mort qui venait jouer lui-même sa tête et faire la guerre à la République. La pensée de pouvoir occuper sans partage une telle âme prêta bientôt à toutes les choses une physionomie différente. Entre le moment où, 5 heures auparavant, elle composa son visage et sa voix pour agacer le gentilhomme, et le moment actuel où elle pouvait le bouleverser d'un regard, il y eut la différence de l'univers mort à un vivant univers. De bons rires, de joyeuses coquetteries cachèrent une immense passion qui se présenta comme le malheur en souriant. Dans les dispositions d'âme où se trouvait Mademoiselle de Verneuil, la vie extérieure prit donc pour elle le caractère d'une fantasmagorie. La calèche passa par des villages, par des vallons, par des montagnes dont aucune image ne s'imprima dans sa mémoire. Elle arriva dans Mayenne, les soldats de l'escorte changèrent, Merle lui parla, elle répondit, traversa toute une ville et se remit en route. Mais les figures, les maisons, les rues, les paysages, les hommes furent emportés comme les formes indistinctes d'un rêve. La nuit vint. Marie voyagea sous un soleil de diamant, enveloppé d'une douce lumière, et sur la route de Fougères, sans qu'il lui vînt dans la pensée que le ciel eût changé d'aspect, sans savoir que c'était ni Mayenne, ni Fougères, ni où elle allait. Qu'elle pût quitter dans peu d'heures l'homme de son choix et par qui elle se croyait choisie n'était pas pour elle une chose possible. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Si parfois sa pensée se trahissait par des paroles, elle laissait échapper des phrases presque dénuées de sens, mais qui résonnaient dans le cœur de son amant comme des promesses de plaisir. Aux yeux des deux témoins de cette passion naissante, elle prenait une marche effrayante. Francine connaissait Marie aussi bien que l'étrangère connaissait le jeune homme, et cette expérience du passé leur faisait attendre en silence quelque terrible dénouement. En effet, elles ne tardèrent pas à voir finir ce drame que Mademoiselle de Verneuil avait si tristement, sans le savoir peut-être, nommé une tragédie. Quand les 4 voyageurs eurent fait environ une lieue hors de Mayenne, ils entendirent un homme à cheval qui se dirigeait vers eux avec une excessive rapidité. Lorsqu'il atteignit la voiture, il se pencha pour y regarder Mademoiselle de Verneuil, qui reconnut Corentin. Ce sinistre personnage se permit de lui adresser un signe d'intelligence dont la familiarité eut quelque chose de flétrissant pour elle, et il s'enfuit après l'avoir glacée par ce signe empreint de bassesse. L'émigré parut désagréablement affecté de cette circonstance qui n'échappa certes point à sa prétendue mère. Mais Marie le pressa légèrement et sembla se réfugier par un regard dans son cœur comme le seul asile qu'elle eût sur terre. Le front du jeune homme s'éclaircit alors en savourant l'émotion que lui fit éprouver le geste par lequel sa maîtresse lui avait révélé, comme par mégarde, l'étendue de son attachement. Une inexplicable peur avait fait évanouir toute coquetterie, et l'amour se montra pendant un moment sans voile. Ils se turent comme pour prolonger la douceur de ce moment. Malheureusement, au milieu d'eux, Madame Dugas voyait tout, et comme un avare qui donne un festin, elle paraissait leur compter les morceaux et leur mesurer la vie. En proie à leur bonheur, les deux amants arrivèrent sans se douter du chemin qu'ils avaient fait à la partie de la route qui se trouve au fond de la vallée d'Ernée et qui forme le premier des trois bassins à travers lesquels se sont passés les événements qui servent d'exposition à cette histoire. Là, Francine aperçut et montra d'étranges figures qui semblaient se mouvoir comme des ombres à travers les arbres et dans les ajoncs dont les champs étaient entourés. Quand la voiture arriva dans la direction de ces ombres, une décharge générale, dont les balles passèrent en sifflant au-dessus des têtes, apprit aux voyageurs que tout était positif dans cette apparition. L'escorte tombait dans une embuscade. À cette vive fusillade, le capitaine Merle regretta vivement d'avoir partagé l'erreur de Mademoiselle de Verneuil, qui, croyant à la sécurité d'un voyage nocturne et rapide, ne lui avait laissé prendre qu'une soixantaine d'hommes. Aussitôt le capitaine, commandé par Gérard, divisa la petite troupe en deux colonnes pour tenir les deux côtés de la route, et chacun des officiers se dirigea vivement, au pas de course, à travers les champs de genêt et d'ajonc, en cherchant à combattre les assaillants avant de les compter. Les bleus se mirent à battre à droite et à gauche ces épais buissons avec une intrépidité pleine d'imprudence et répondirent à l'attaque des chouans par un feu soutenu dans les genêts d'où partaient les coups de fusil. Le premier mouvement de Mademoiselle de Verneuil avait été de sauter hors de la calèche et de courir assez loin en arrière pour s'éloigner du champ de bataille. Mais honteuse de sa peur, émue par ce sentiment qui porte à se grandir aux yeux de l'être aimé, elle demeura immobile et tâcha d'examiner froidement le combat. L'émigré la suivit, lui prit la main et la plaça sur son cœur. « J'ai peur, » dit-elle en souriant, « mais maintenant... » En ce moment, sa femme de chambre effrayée lui cria « Marie, prenez garde !» Mais Francine, qui voulait s'élancer hors de la voiture, s'y sentit arrêtée par une main vigoureuse. Le poids de cette main énorme lui arracha un cri violent. Elle se retourna et garda le silence en reconnaissant la figure de Marchater. « Je devrais donc à vos terreurs, disait l'étranger à Mademoiselle de Verneuil, la révélation des plus doux secrets du cœur. Grâce à Francine, j'apprends que vous portez le nom gracieux de Marie. Marie, le nom que j'ai prononcé dans toutes mes angoisses. Marie, le nom que je prononcerai désormais dans la joie et que je ne dirai plus maintenant sans faire un sacrilège en confondant la religion et l'amour. Mais serait-ce donc un crime que de prier et d'aimer tout ensemble ? » À ces mots, ils se serrèrent fortement la main, se regardèrent en silence, et l'excès de leurs sensations leur ôta la force et le pouvoir de les exprimer. « Ce n'est pas pour vous autres qu'il y a du danger !» dit brutalement Marchater à Francine en donnant au son rauque et guttural de sa voix une sinistre expression de reproche et appuyant sur chaque mot de manière à jeter l'innocente paysanne dans la stupeur. Pour la première fois, la pauvre fille apercevait de la férocité dans les regards de Marchater. La lueur de la lune semblait être la seule qui convainc à cette figure. Ce sauvage breton, tenant son bonnet d'une main, sa lourde carabine de l'autre, ramassé comme un gnome et enveloppé par cette blanche lumière dont les flots donnent aux formes de si bizarres aspects, appartenait ainsi plutôt à la féerie qu'à la vérité. Cette apparition et son reproche eurent quelque chose de la rapidité des fantômes. Il se tourna brusquement vers Madame Dugas, avec laquelle il échangea de vives paroles, et Francine, qui avait un peu oublié le bas breton, ne put y rien comprendre. La dame paraissait donner à marche à terre des ordres multipliés. Cette courte conférence fut terminée par un geste impérieux de cette femme qui désignait au chouans les deux amants. Avant d'obéir, marche à terre jeta un dernier regard à Francine qu'il semblait plaindre. Il aurait voulu lui parler, mais la bretonne sut que le silence de son amant était imposé. La peau rude et tannée de cet homme parvint à se plisser sur son front et ses sourcils se rapprochèrent violemment. Résistait-il à l'ordre renouvelé de tuer mademoiselle de Verneuil? Cette grimace le rendit sans doute plus hideux à madame Dugas, mais l'éclair de ses yeux devint presque doux pour Francine, qui, devinant par ce regard qu'elle pourrait faire plier l'énergie de ce sauvage sous sa volonté de femme, espéra régner encore, après Dieu, sur ce cœur grossier. Le doux entretien de Marie fut interrompu par madame Dugas, qui vint la prendre en criant comme si quelque danger la menaçait, mais elle voulait uniquement laisser l'un des membres du comité royaliste d'Alençon, qu'elle reconnut, libre de parler à l'émigré. « Défiez-vous de la fille que vous avez rencontrée à l'hôtel des Trois Maures. » Après avoir dit cette phrase à l'oreille du jeune homme, le chevalier de Valois, qui montait un petit cheval breton, disparut dans les genêts d'où il venait de sortir. En ce moment, le feu roulait avec une étonnante vivacité, mais sans que les deux parties en vinssent aux mains. « Mon adjudant, ne serait-ce pas une fausse attaque pour enlever nos voyageurs et leur imposer une rançon ?» dit la clé des cœurs. « Tu as les pieds dans leurs souliers ou le diable m'emporte !» répondit Gérard en volant sur la route. En ce moment, le feu des chouans se ralentit, car la communication faite au chef par le chevalier était le seul but de leur escarmouche. Merle, qui les vit se sauvant en petit nombre à travers les haies, ne jugea pas à propos de s'engager dans une lutte inutilement dangereuse. Gérard, en deux mots, fit reprendre à l'escorte sa position sur le chemin et se remit en marche sans voir essuyer de perte. Le capitaine put offrir la main de mademoiselle de Verneuil pour remonter en voiture, car le gentilhomme resta comme frappé de la foudre. La Parisienne, étonnée, monta sans accepter la politesse du républicain. Elle tourna la tête vers son amant, le vit immobile, et fut stupéfaite du changement subit que les mystérieuses paroles du cavalier venaient d'opérer en lui. Le jeune émigré revint lentement, et son attitude décelait un profond sentiment de dégoût. « N'avais-je pas raison ?» dit à l'oreille du jeune homme madame Dugas en le ramenant à la voiture. « Nous sommes certes entre les mains d'une créature avec laquelle on a trafiqué de votre tête, mais puisqu'elle est assez sotte pour s'amouracher de vous, au lieu de faire son métier, n'allez pas vous conduire en enfant et feignez de l'aimer jusqu'à ce que nous ayons gagné la vive tière. Une fois là... » « Mais l'aimerait-il donc déjà ?» se dit-elle en voyant le jeune homme à sa place dans l'attitude d'un homme endormi. La calèche roula sourdement sur le sable de la route. Au premier regard que mademoiselle de Verneuil jeta autour d'elle, tout lui parut avoir changé. La mort se glissait déjà dans son amour. Ce n'était peut-être que des nuances, mais aux yeux de toute femme qui aime, ces nuances sont aussi tranchées que de vives couleurs. Francine avait compris, par le regard de marche à terre, que le destin de mademoiselle de Verneuil, sur laquelle elle lui avait ordonné de veiller, était entre d'autres mains que les siennes, et offrait un visage pâle sans pouvoir retenir ses larmes quand sa maîtresse la regardait. La dame inconnue cachait mal, sous de faux sourires, la malice d'une vengeance féminine, et le subit changement que son obséquieuse bonté pour mademoiselle de Verneuil introduisit dans son maintien, dans sa voix et dans sa physionomie, était de nature à donner des craintes à une personne perspicace. Aussi mademoiselle de Verneuil frissonna-t-elle par instinct en se demandant « Pourquoi frissonnais-je ? C'est sa mère !» Mais elle trembla de tous ses membres en se disant tout à coup « Est-ce bien sa mère ?» Elle vit un abîme qu'un dernier coup d'œil jeté sur l'inconnu acheva d'éclairer. « Cette femme l'aime ? » pensa-t-elle. « Mais pourquoi m'accabler de prévenance après m'avoir témoigné tant de froideur ? Suis-je perdue ? Aurait-elle peur de moi ?» Quant au gentilhomme, il pâlissait, rougissait tour à tour et gardait une attitude calme en baissant les yeux pour dérober les étranges émotions qui l'agitaient. Une compression violente détruisait la gracieuse courbure de ses lèvres et son teint jaunissait sous les efforts d'une orageuse pensée. Mademoiselle de Verneuil, ne pouvant même plus deviner s'il y avait encore de l'amour dans sa fureur. Le chemin, flanqué de bois en cet endroit, devint sombre et empêcha ces muets acteurs de s'interroger des yeux. Le murmure du vent, le bruissement des touffes d'arbres, le bruit des pas mesurés de l'escorte donnèrent à cette scène ce caractère solennel qui accélère les battements du cœur. Mademoiselle de Verneuil ne pouvait pas chercher en vain la cause de ce changement. Le souvenir de Corentin passa comme un éclair et lui apporta l'image de sa véritable destinée qui lui apparut tout à coup. Pour la première fois depuis la matinée, elle réfléchit sérieusement à sa situation. Jusqu'en ce moment, elle s'était laissée aller au bonheur d'aimer, sans penser ni à elle ni à l'avenir. Incapable de supporter plus longtemps ses angoisses, elle chercha, elle attendit, avec la douce patience de l'amour, un des regards du jeune homme, et le supplia si vivement, sa pâleur et son frisson eurent une éloquence si pénétrante qu'il chancela, mais la chute n'en fut que plus complète. « Souffririez-vous, mademoiselle ? » demanda-t-il. Cette voix, dépouillée de douceur, la demande elle-même. Le regard, le geste, tout servit à convaincre la pauvre fille que les événements de cette journée appartenaient à un mirage de l'âme qui se dissipait alors comme ces nuages à demi formés que le vent emporte. « Si je souffre, reprit-elle en riant forcément, j'allais vous faire la même question. « Je croyais que vous vous entendiez ?» dit Madame Dugas avec une fausse bonhomie. Ni le gentilhomme, ni Mademoiselle de Verneuil ne répondirent. La jeune fille, doublement outragée, se dépita de voir sa puissante beauté sans puissance. Elle savait pouvoir apprendre au moment où elle le voudrait la cause de cette situation, mais peu curieuse de la pénétrer pour la première fois peut-être, une femme recula devant un secret. La vie humaine est tristement fertile en situation où, par suite soit d'une méditation trop forte, soit d'une catastrophe, nos idées ne tiennent plus à rien, sont sans substance, sans point de départ, où le présent ne trouve plus de lien pour se rattacher au passé ni dans l'avenir. Tel fut l'état de mademoiselle de Verneuil. Penchée dans le fond de la voiture, Elle y resta comme un arbuste déraciné. Muette et souffrante, elle ne regarda plus personne, s'enveloppa de sa douleur et demeura avec tant de volonté dans le monde inconnu où se réfugient les malheureux qu'elle ne vit plus rien. Des corbeaux passèrent en croissant au-dessus d'eux, mais quoique semblable à toutes les âmes fortes, elle eut un coin du cœur pour les superstitions. Elle n'y fit aucune attention. Les voyageurs cheminèrent quelque temps en silence. « Déjà séparés, » se disait mademoiselle de Verneuil. « Cependant rien autour de moi n'a parlé. Serait-ce Corentin ? Ce n'est pas son intérêt. Qui donc a pu se lever pour m'accuser ? À peine aimé, voici déjà l'horreur de l'abandon. Je sème l'amour et je recueille le mépris. Il sera donc toujours dans ma destinée de toujours voir le bonheur et de toujours le perdre. » Elle sentit alors dans son cœur des troubles inconnus, car elle l'aimait réellement et pour la première fois. Cependant, elle n'était pas tellement livrée qu'elle ne pût trouver des ressources contre sa douleur dans la fierté naturelle à une femme jeune et belle. Le secret de son amour, ce secret souvent gardé dans les tortures, ne lui était pas échappé. Elle se releva, et honteuse de donner la mesure de sa passion par sa silencieuse souffrance, elle secoua la tête par un mouvement de gaieté, montra un visage, ou plutôt un masque, riant, puis elle força sa voix pour en déguiser l'altération. « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle au capitaine Merle, qui se tenait toujours à une certaine distance de la voiture. « À 3 lieues et demie de Fougères, mademoiselle. » « Nous allons donc y arriver bientôt, » lui dit-elle pour l'encourager à lier une conversation où elle se promettait bien de témoigner quelque estime au jeune capitaine. « Ces lieux-là, » reprit Merle tout joyeux, « ne sont pas larges. Seulement elles se permettent, dans ce pays-ci, de ne jamais finir. » Lorsque vous serez sur le plateau de la côte que nous gravissons, vous apercevrez une vallée semblable à celle que nous allons quitter, et à l'horizon, vous pourrez alors voir le sommet de la Pèlerine. Plaise à Dieu que les chouans ne veuillent pas y prendre leur revanche. Or, vous concevez qu'à monter et descendre ainsi, on avance guère. De la Pèlerine, vous découvrirez encore... À ce mot, l'émigré tressaillit pour la seconde fois, mais si légèrement que mademoiselle de Verneuil fut seule à remarquer ce tressaillement. « Qu'est-ce donc que cette pèlerine ? » demanda vivement la jeune fille en interrompant le capitaine engagé dans sa topographie bretonne. « C'est, » reprit Merle, « le sommet d'une montagne qui donne son nom à la vallée du Maine dans laquelle nous allons entrer et qui sépare cette province de la vallée du Couesnon à l'extrémité de laquelle est située Fougères, la première ville de Bretagne. Nous nous y sommes battus à la fin des Vendémiaires avec le gars et ses brigands. Nous emmenions des conscrits qui, pour ne pas quitter leur pays, ont voulu nous tuer sur la limite. » Mais Hulot est un rude chrétien qui leur a donné. « Alors vous avez dû voir le gars ? » demanda-t-elle. « Quel homme est-ce ? » Ses yeux perçants et malicieux ne quittèrent pas la figure du faux vicomte de Beauvent. « Oh, mon Dieu, mademoiselle !» répondit Merle, toujours interrompue. « Il ressemble tellement au citoyen du gars que, s'il ne portait pas l'uniforme de l'école polytechnique, je gagerais que c'est lui. » Mademoiselle de Verneuil regarda fixement le froid et immobile jeune homme qui la dédaignait, mais elle ne vit rien en lui qui pût trahir un sentiment de crainte. Elle l'instruisit par un sourire amer de la découverte qu'elle faisait en ce moment du secret si traîtreusement gardé par lui. Puis, d'une voix railleuse, les narines enflées de joie, la tête de côté pour examiner le gentilhomme et voir Merle tout à la fois, elle dit au républicain « Ce chef-là, capitaine, donne bien des inquiétudes au premier consul. Il a de la hardiesse, dit-on. Seulement, il s'aventure dans certaines entreprises comme un étourneau, surtout auprès des femmes. » « Nous comptons bien là-dessus, reprit le capitaine, pour solder notre compte avec lui. Si nous le tenons seulement 2 heures, nous lui mettrons un peu de plomb dans la tête. S'il nous rencontrait, le Koblenz en ferait autant de nous et nous mettrait à l'ombre. Ainsi, par Paris. » « Oh ! Dit l'émigré, nous n'avons rien à craindre. Vos soldats n'iront pas jusqu'à la pèlerine. Ils sont trop fatigués. Et si vous y consentez, ils pourront se reposer à 2 pas d'ici. Ma mère descend à la vivetière, et en voici le chemin à quelques portées de fusil. Ces 2 dames voudront s'y reposer. Elles doivent être lasses d'être venues d'une seule traite d'Alençon ici. Et puisque mademoiselle, dit-il avec une politesse forcée en se tournant vers sa maîtresse, a eu la générosité de donner à notre voyage autant de sécurité que d'agrément, elle daignera peut-être accepter à souper chez ma mère. Enfin, capitaine, ajouta-t-il en s'adressant à Merle, les temps ne sont pas si malheureux qu'il ne puisse se trouver encore à la vivetière une pièce de cidre à défoncer pour vos hommes. Allez, le gars n'y aura pas tout pris, du moins. Ma mère le croit.
Votre mère, reprit mademoiselle de Verneuil en interrompant avec ironie et sans répondre à la singulière invitation qu'on lui faisait.
Mon âge ne vous semble donc plus croyable ce soir, mademoiselle, répondit madame Dugas. J'ai eu le malheur d'être mariée fort jeune et j'ai eu mon fils à 15 ans.
Ne vous trompez pas, madame. « Ne serait-ce pas à 30 ?»
Madame Dugas pâlit en dévorant ce sarcasme. Elle aurait voulu pouvoir se venger et se trouver forcée de sourire, car elle désira reconnaître à tout prix, même à de plus cruels épigrammes, le sentiment dont la jeune fille était animée. Aussi feignit-elle de ne l'avoir pas comprise.
Jamais les chouans n'ont eu de chef plus cruel que celui-là, s'il faut ajouter foi au bruit qui court sur lui, dit-elle en s'adressant à la fois à Francine et à sa maîtresse.
Oh, pour cruel, je ne crois pas, répondit mademoiselle de Verneuil, mais il sait mentir et me semble fort crédule. Un chef de parti ne doit être le jouet de personne.
« Vous le connaissez ?» demanda froidement le jeune émigré.
« Non, répliqua-t-elle en lui lançant un regard de mépris. Je croyais le connaître.
« Oh, mademoiselle, c'est décidément un malin !» reprit le capitaine en hochant la tête et donnant par un geste expressif la physionomie particulière que ce mot avait alors et qu'il a perdu depuis. Ces vieilles familles poussent quelquefois de vigoureux rejetons. Il revient du pays où les ci-devant n'ont pas eu, dit-on, toutes leurs aises. Et les hommes, voyez-vous, sont comme les nèfles. Ils mûrissent sur la paille. Si ce garçon-là est habile, il pourra vous faire courir longtemps. Il a bien su opposer des compagnies légères à nos compagnies franches et neutraliser les efforts du gouvernement. Si l'on brûle un village aux royalistes, il en fait brûler 2 aux républicains. Il se développe sur une immense étendue et nous force ainsi à employer un nombre considérable de troupes dans un moment où nous n'en avons pas de trop. Oh, il entend les affaires.
Il assassine sa patrie, dit Gérard d'une voix forte en interrompant le capitaine.
Mais, répliqua le gentilhomme, si sa mort délivre le pays, fusillez-le donc bien vite. » Puis il sonda, par un regard, l'âme de mademoiselle de Verneuil, et il se passa entre eux une de ces scènes muettes dont le langage ne peut reproduire que très imparfaitement la vivacité dramatique et la fugitive finesse. Le danger rend intéressant. Quand il s'agit de mort, le criminel le plus vil excite toujours un peu de pitié. Or, quoique mademoiselle de Verneuil fût alors certaine que l'amant qui la dédaignait était ce chef dangereux, elle ne voulait pas encore s'en assurer par son supplice. Elle avait une tout autre curiosité à satisfaire. Elle préféra donc douter ou croire, selon sa passion, et se mit à jouer avec le péril. Son regard, empreint d'une perfidie moqueuse, montrait les soldats au jeune chef d'un air de triomphe. En lui présentant ainsi l'image de son danger, elle se plaisait à lui faire durement sentir que sa vie dépendait d'un seul mot, et déjà ses lèvres paraissaient se mouvoir pour le prononcer. Semblable à un sauvage d'Amérique, elle interrogeait les fibres du visage de son ennemi lié au poteau et brandissait le casse-tête avec grâce, savourant une vengeance toute innocente et punissant comme une maîtresse qui aime encore. « Si j'avais un fils comme le vôtre, madame, dit-elle à l'étrangère, visiblement épouvantée, je porterai mon deuil le jour où je l'aurai livré au danger. » Elle ne reçut point de réponse. Elle tourna 20 fois la tête vers les officiers et la retourna brusquement vers madame Dugas, sans surprendre entre elle et le gars aucun signe secret qui pût lui confirmer une intimité qu'elle soupçonnait et dont elle voulait douter. Une femme aime tant à hésiter dans une lutte de vie et de mort quand elle tient l'arrêt. Le jeune général souriait de l'air le plus calme et soutenait, sans trembler, la torture que mademoiselle de Verneuil lui faisait subir. Son attitude et l'expression de sa physionomie annonçaient un homme nonchalant des dangers auxquels il s'était soumis. Et parfois, il semblait lui dire « Voici l'occasion de venger votre vanité blessée. Saisissez-la. Je serai au désespoir de revenir de mon mépris pour vous. » Mademoiselle de Verneuil se mit à examiner le chef de toute la hauteur de sa position avec une impertinence et une dignité apparente, car au fond de son cœur, elle en admirait le courage et la tranquillité. Joyeuse de découvrir que son amant portait un vieux titre dont les privilèges plaisent à toutes les femmes, elle éprouvait quelque plaisir à le rencontrer dans une situation où, champion d'une cause ennoblie par le malheur, il luttait avec toutes les facultés d'une âme forte contre une république tant de fois victorieuse, et de le voir aux prises avec le danger, déployant cette bravoure si puissante sur le cœur des femmes, elle le mit 20 fois à l'épreuve, en obéissant peut-être à cet instinct qui porte la femme à jouer avec sa proie comme le chat joue avec la souris qui l'a prise. En vertu de quelle loi condamnez-vous donc les chouans à mort? Demanda-t-elle à Merle. Mais celle du 14 Fructidor dernier, qui met hors la loi les départements insurgés et y institue des conseils de guerre, répondit le républicain. À quoi dois-je maintenant l'honneur d'attirer vos regards? Dit-elle au jeune chef qui l'examinait attentivement. à un sentiment qu'un galant homme ne saurait exprimer à quelque femme que ce puisse être, répondit le marquis de Montauran à voix basse en se penchant vers elle.
Il fallait, dit-il à haute voix, vivre en ce temps pour voir des filles faisant l'office du bourreau et enchérissant sur lui par la manière dont elles jouent avec la hache.
Elle regarda Montauran fixement, puis, ravie d'être insultée par cet homme au moment où elle en tenait la vie entre ses mains, elle lui dit à l'oreille, en riant, avec une douce malice, « Vous avez une trop mauvaise tête. Les bourrons n'en voudront pas. Je la garde. » Le marquis, stupéfait, contempla pendant un moment cette inexplicable fille dont l'amour triomphait de tout, même des plus piquantes injures, et qui se vengeait par le pardon d'une offense que les femmes ne pardonnent jamais. Ses yeux furent moins sévères, moins froids, et même une expression de mélancolie se glissa dans ses traits. Sa passion était déjà plus forte qu'il ne le croyait lui-même. Mademoiselle de Verneuil, satisfait de ce faible gage d'une réconciliation cherchée, regarda le chef tendrement, lui jeta un sourire qui ressemblait à un baiser, puis elle se pencha dans le fond de la voiture et ne voulut plus risquer l'avenir de ce drame de bonheur, croyant en avoir rattaché le nœud par ce sourire. Elle était si belle, elle savait si bien triompher des obstacles en amour. Elle était si fort habituée à se jouer de tout, à marcher au hasard. Elle aimait tant l'imprévu et les orages de la vie. Bientôt, par l'ordre du marquis, la voiture quitta la grande route et se dirigea vers la Vivetière, à travers un chemin creux, encaissé de hauts talus, planté de pommiers qui en faisaient plutôt un fossé qu'une route. Les voyageurs laissèrent les bleus gagner lentement à leur suite le manoir dont les fêtes grisâtres apparaissaient et disparaissaient tour à tour entre les arbres de cette route, d'où quelques soldats restèrent occupés à en disputer leurs souliers avec la forte argile.
« Cela ressemble furieusement au chemin du paradis !» s'écria Beaupied.
Grâce à l'expérience du postillon, Mademoiselle de Verneuil ne tarda pas à voir le château de la Vivetière. Cette maison, située sur la croupe d'une espèce de promontoire, était enveloppée par deux étangs profonds qui ne permettaient d'y arriver qu'en suivant une étroite chaussée. La partie de cette péninsule où se trouvaient les habitations et les jardins était protégée à une certaine distance derrière le château par un large fossé où se déchargeait l'eau superflue des étangs avec lesquels il communiquait, et formait ainsi réellement une presqu'île inexpugnable, retraite précieuse, pour un chef qui ne pouvait être surpris que par trahison. En entendant crier les gonds rouillés de la porte, et en passant sous la voûte en ogive d'un portail ruiné par la guerre précédente, Mademoiselle de Verneuil avança la tête. Les couleurs sinistres du tableau qui s'offrit à ses regards effacèrent presque les pensées d'amour et de coquetterie entre lesquelles elle se berçait. La voiture entra dans une grande cour presque carrée et fermée par les rives abruptes des étangs. Ses berges sauvages, baignées par des eaux couvertes de grandes taches vertes, avaient pour tout ornement des arbres aquatiques dépouillés de feuilles, dont les troncs rabougris, les têtes énormes et chenues, élevées au-dessus des roseaux et des broussailles, ressemblaient à des marmousets grotesques. Ces haies disgracieuses parurent s'animer et parler quand les grenouilles les désertèrent en croassant et que des poules d'eau, réveillées par le bruit de la voiture, volèrent en barbotant sur la surface des étangs. La cour
entourée d'herbes hautes et flétries, d'ajoncs, d'arbustes nains ou parasites, excluait toute idée d'ordre et de splendeur. Le château semblait abandonné depuis longtemps. Les toits paraissaient plier sous le poids des végétations qui y croissaient. Les murs, quoique construits de ces pierres schisteuses et solides dont abonde le sol, offraient de nombreuses lézardes où le lierre attachait ses griffes. Deux corps de bâtiment réunis en équerre à une haute tour et qui faisaient face à l'étang composaient tout le château, dont les portes et les volets pendants et pourris, les balustrades rouillées, les fenêtres ruinées, paraissaient devoir tomber au premier souffle d'une tempête. La bise sifflait alors à travers ces ruines auxquelles la lune prêtait, par sa lumière indécise, le caractère et la physionomie d'un grand spectre. Il faut avoir vu les couleurs de ces pierres granitiques grises et bleues mariées aux schistes noirs et fauves pour savoir combien est vraie l'image que suggérait la vue de cette carcasse vide et sombre. Ces pierres disjointes, ces croisées sans vitres, sa tour à créneaux, ses toits à jour lui donnaient tout à fait l'air d'un squelette, et les oiseaux de proie qui s'envolèrent en criant ajoutaient un trait de plus à cette vague ressemblance. Quelques hauts sapins plantés derrière la maison balançaient au-dessus des toits leur feuillage sombre, et quelques ifs, taillés pour en décorer les angles, l'encadraient de tristes festons, semblables aux tentures d'un convoi. Enfin, la forme des portes, la grossièreté des ornements, le peu d'ensemble des constructions, tout annonçait un de ces manoirs féodaux dont s'enorgueillit la Bretagne, avec raison peut-être, car il forme sur cette terre gaélique une espèce d'histoire monumentale des temps nébuleux qui précède l'établissement de la monarchie. Mademoiselle de Verneuil, dans l'imagination de laquelle le mot de « château » réveillait toujours les formes d'un type convenu, frappé de la physionomie funèbre de ce tableau, sauta légèrement hors de la calèche et le contempla toute seule avec terreur, en songeant au parti qu'elle devait prendre. Francine entendit pousser à Madame Dugas un soupir de joie en se trouvant hors de l'atteinte des bleus, et une exclamation involontaire lui échappa quand le portail fut fermé et qu'elle se vit dans cette espèce de forteresse naturelle. Montauran s'était vivement élancé vers Mademoiselle de Verneuil en devinant les pensées qui la préoccupaient. « Ce château, dit-il avec une légère tristesse, a été ruiné par la guerre, comme les projets que j'élevais pour notre bonheur l'ont été par vous. »
« Et comment ? » demanda-t-elle toute surprise. « Êtes-vous une jeune femme belle, noble et spirituelle ? »
dit-il avec un accent d'ironie en lui répétant les paroles qu'elle avait si coquettement prononcées dans leur conversation sur la route.
« Qui vous a dit le contraire ? »
Des amis dignes de foi qui s'intéressent à ma sûreté et veillent à déjouer les trahisons.
« Des trahisons ? » dit-elle d'un air moqueur.
« Alençon et Hulot sont-ils donc déjà si loin ? Vous n'avez pas de mémoire, un défaut dangereux pour un chef de parti.
Mais du moment où des amis, ajouta-t-elle avec une rare impertinence, règne si puissamment dans votre cœur, gardez vos amis. Rien n'est comparable au plaisir de l'amitié. Adieu, ni moi, ni les soldats de la République, nous n'entrerons ici. » Elle s'élança vers le portail par un mouvement de fierté blessée et de dédain, mais elle déploya dans sa démarche une noblesse et un désespoir qui changèrent toutes les idées du marquis à qui il en coûtait trop de renoncer à ses désirs pour qu'il ne fût pas imprudent et crédule. Lui aussi aimait déjà. Ces deux amants n'avaient donc envie, ni l'un ni l'autre, de se quereller longtemps.
« Ajoutez un mot et je vous crois, » dit-il d'une voix suppliante.
« Un mot, » reprit-elle avec ironie en serrant les lèvres. « Un mot, pas seulement un geste. »
« Au moins, grondez-moi, »
demanda-t-il en essayant de prendre une main qu'elle retira. « Si toutefois vous osez bouder un chef de rebelles, maintenant aussi défiant et sombre qu'il était joyeux et confiant naguère. »
Marie, ayant regardé le marquis sans colère, il ajouta « Vous avez mon secret et je n'ai pas le vôtre. » À ces mots, le front d'Albâtre sembla devenu brun. Marie jeta un regard d'humeur au chef et répondit « Mon secret ? Jamais !» En amour, chaque parole, chaque coup d'œil ont leur éloquence du moment. Mais là, mademoiselle de Verneuil n'exprima rien de précis, et quelque habile que fût Montauran, le secret de cette exclamation resta impénétrable, quoique la voix de cette femme eût trahi des émotions peu ordinaires qui durent vivement piquer sa curiosité.
« Vous avez, reprit-il, une plaisante manière de dissiper les soupçons.
« En conservez-vous donc ? » demanda-t-elle en le toisant des yeux, comme si elle eût dit « Avez-vous quelque droit sur moi ?»«
Mademoiselle, répondit le jeune homme, d'un air soumis et ferme. Le pouvoir que vous exercez sur les troupes républicaines, cette escorte.
Ah, vous m'y faites penser. Mon escorte et moi, lui demanda-t-elle avec une légère ironie. Vos protecteurs, enfin, seront-ils en sûreté ici?
Oui, foi de gentilhomme, qui que vous soyez, vous et les vôtres. « Vous n'avez rien à craindre chez moi. »
Ce serment fut prononcé par un mouvement si loyal et si généreux que mademoiselle de Verneuil dut avoir une entière sécurité sur le sort des républicains. Elle allait parler quand l'arrivée de madame Dugal lui imposa le silence. Cette dame avait pu entendre ou deviner une partie de la conversation des deux amants et ne concevait pas de médiocres inquiétudes en les apercevant dans une position qui n'accusait plus la moindre inimitié. En voyant cette femme, le marquis offrit la main à mademoiselle de Verneuil et s'avança vers la maison avec vivacité comme pour se défaire d'une importune compagnie.
« Je le gêne !» se dit l'inconnu en restant immobile à sa place. Elle regarda les deux amants, réconciliés, s'en allant lentement vers le perron, où ils s'arrêtèrent pour causer aussitôt qu'ils eurent mis entre elle et eux un certain espace.
« Oui, oui, je les gêne, » reprit-elle en se parlant à elle-même. « Mais dans peu, cette créature-là ne me gênera plus. L'étang sera, par Dieu, son tombeau. » « Ne tiendrai-je pas bien ta parole de gentilhomme ? Une fois sous cette eau, qu'a-t-on à craindre ? N'y serait-elle pas en sûreté ?»
Elle regardait d'un œil fixe le miroir calme du petit lac de droite, quand tout à coup elle entendit bruire les ronces de la berge et aperçut au clair de la lune la figure de marche-à-terre qui se dressa par-dessus la noueuse écorce d'un vieux saule. Il fallait connaître le chouan pour le distinguer au milieu de cette assemblée de truisses branchées parmi lesquelles la sienne se confondait si facilement. Madame Dugas jeta d'abord autour d'elle un regard de défiance. Elle vit le postillon conduisant ses chevaux à une écurie située dans celle des deux ailes du château qui faisait face à la rive où Marche-à-Terre était cachée. Francine allait vers les deux amants qui, dans ce moment, oubliaient toute la terre. Alors l'inconnu s'avança, mettant un doigt sur ses lèvres pour réclamer un profond silence. Puis le chouan comprit plutôt qu'il n'entendit les paroles suivantes. « Combien êtes-vous ici ?»«
87 !»«
Ils ne sont que 65, je les ai comptés. »
« Bien, reprit le sauvage avec une satisfaction farouche.
Attentif au moindre geste de Francine, le chouan disparut dans l'écorce du saule en la voyant se retourner pour chercher des yeux l'ennemie sur laquelle elle veillait par instinct. Sept ou huit personnes, attirées par le bruit de la voiture, se montrèrent en haut du principal perron et s'écrièrent « C'est le gars, c'est lui, le voici !» À ces exclamations, d'autres hommes accoururent et leur présence interrompit la conversation des deux amants. Le marquis de Montauran s'avança précipitamment vers les gentilshommes, leur fit un signe impératif pour leur imposer le silence et leur indiqua le haut de l'avenue par laquelle débouchaient les soldats républicains. À l'aspect de ces uniformes bleus à revers rouges si connus et de ces baïonnettes luisantes, les conspirateurs étonnés s'écrièrent « Seriez-vous donc venus pour nous trahir ?»«
Je ne vous avertirai pas du danger ?»
répondit le marquis en souriant avec amertume. « Ces bleus, reprit-il après une pause, forment l'escorte de cette jeune dame dont la générosité nous a miraculeusement délivrés d'un péril auquel nous avons failli succomber dans une auberge d'Alençon. Nous vous conterons cette aventure. Mademoiselle et son escorte sont ici sur ma parole et doivent être reçues en amis. » Madame Dugas et Francine étaient arrivées jusqu'au perron. Le marquis présenta galamment la main à Mademoiselle de Verneuil. Le groupe de gentilshommes se partagea en deux haies pour les laisser passer, et tous essayèrent d'apercevoir les traits de l'inconnu, car Madame Dugas avait déjà rendu leur curiosité plus vive en leur faisant quelques signes à la dérobée. Mademoiselle de Verneuil vit dans la première salle une grande table parfaitement servie et préparée pour une vingtaine de convives. Cette salle à manger communiquait à un vaste salon où l'assemblée se trouva bientôt réunie. Ces deux pièces étaient en harmonie avec le spectacle de destruction qu'offraient les dehors du château. Les boiseries de noyers polis, mais de forme rude et grossière, saillantes, mal travaillées, étaient disjointes et semblaient près de tomber. Leur couleur sombre ajoutait encore à la tristesse de ces salles sans glace ni rideaux, où quelques meubles séculaires et en ruine s'harmonisaient avec cet ensemble de débris. Marie aperçut des cartes géographiques et des plans déroulés sur une grande table, puis dans les angles de l'appartement, des armes et des carabines amoncelées. Tout témoignait d'une conférence importante entre les chefs des Vendéens et ceux des Chouans. Le marquis conduisit Mademoiselle de Verneuil à un immense fauteuil vermoulu qui se trouvait auprès de la cheminée, et Francine vint se placer derrière sa maîtresse en s'appuyant sur le dossier de ce meuble antique.